Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être parmi vous et de partager la parole du Seigneur avec vous. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis là depuis 2 mois. C'est mon dernier message parce que je pars le mardi à 7h. Je serai probablement à l'aéroport pour Abidjan. Alors, on m'a confié le dernier chapitre de 1 Pierre et j'ai donné comme titre ou thème, comme sujet à partager ce soir, c'est le service chrétien inspiré par la perspective du retour du Seigneur. Quelquefois, dans l'œuvre du Seigneur, on s'est questionné, on s'est posé des questions de savoir tout ce que je suis en train de faire dans le Seigneur, pour le Seigneur, sur cette terre, quelle est la récompense que je gagne? Et nous, les pasteurs, nous nous posons régulièrement ces questions, quelquefois, où on se remet en cause. On vit quelquefois difficilement à cause des moyens qui ne sont pas, les moyens matériels, les moyens financiers, mais nous sommes engagés pour l'œuvre. Et on voit des gens avec qui on a étudié ou qu'on est né ensemble et qui sont en train de monter dans la société et nous sommes là. Et on se demande, tout ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je gagne en retour? Alors ici, ce sujet nous inspire à voir un chrétien ou un serviteur qui est en train de servir le Seigneur en regardant dans la perspective du retour du Seigneur et pas dans la vision de récompenses terrestres, mais plutôt en regardant les récompenses à venir pendant que le Seigneur serait de retour. Et c'est ce que nous inspire le texte de 1 Pierre 5 et tous les versets de ce chapitre-là. Alors, dans ce dernier chapitre de l'Épître, deux catégories de personnes, les anciens et les jeunes, donc reçoivent une exhortation particulière. L'apôtre exhorte encore les croyants à la sobriété et à la vigilance en attendant le jour où la souffrance aura pris fin pour faire place à la gloire éternelle. Enfin, nous dirons quel encouragement pour ces témoins persécutés de savoir qu'ils sont établis dans la vraie grâce de Dieu. Comment ces chrétiens persécutés sur cette terre peuvent comprendre que même ces persécutions pour nous, nous mettent dans la grâce et dans la gloire du Seigneur. C'est pourquoi nous allons essayer de parcourir ces textes. J'ai essayé de morceler en trois différentes parties. La première partie, c'est l'exhortation aux anciens qui se trouve à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non par gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant modèle du troupeau. Et ici, nous voyons que l'apôtre Pierre qui fait cette adresse utilise le terme ancien. Ancien ici caractérise ici, ceux qui, par leur âge et surtout par leur expérience, se distinguent des jeunes. Mais les thèmes n'ont pas les mêmes connotations ou significations selon les épîtres. Pour l'apôtre Paul, le mot « ancien » désigne plutôt celui qui possède un don qu'il exerce dans l'Assemblée de Dieu, dans l'assemblée du corps de Christ. C'est un titre, on fait de quelqu'un un ancien. Donc, quand on parle d'ancien, dans l'esprit de Paul, il s'agit de quelqu'un qui a eu une fonction d'exercer sur le peuple de Dieu ou parmi le peuple de Dieu. Mais pour Pierre ici, il s'agit plutôt de quelqu'un qui est plus expérimenté, quelqu'un qui est plus ancien, quelqu'un qui est plus âgé, qui reçoit cette exhortation. L'apôtre Pierre s'attribue lui-même humblement le titre d'ancien, comme le ferait aussi Jean dans 2 Jean verset 1 ou dans 3 Jean verset 1. On a les mêmes références. Il a été témoin des souffrances de Christ, mais aussi de sa gloire, en attendant qu'elle soit révélée. Il peut exhorter les croyants avec l'expérience d'un ancien et l'autorité d'un apôtre. Et nous savons que Pierre fut ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a été témoin oculaire, dirons-nous, aujourd'hui. Il est de ceux qui sont plus expérimentés dans la chose. Et il dit, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Dans le verset 2. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Il emploie à leur égard les paroles que le Seigneur lui avait adressé. Vous vous souvenez, dans Jean 21, le verset 16, nous voyons que le Seigneur Jésus disait à Pierre, « Paix mes brebis ». Et Pierre, à son tour, utilise cette même expression en disant aux anciens de faire paître le troupeau de Dieu qui est avec eux. Le troupeau appartient donc à Dieu, qui désire que soient prodigués tous les soins nécessaires à chaque brebis. Alors, nous avons, nous anciens, nous responsables, avons une responsabilité d'avoir un troupeau que Dieu nous confie. Le troupeau ne nous appartient pas, mais c'est le troupeau de Dieu. Souvent, on fait des abus d'expression ou de langage de dire « c'est mon église ». J'ai bâti cette église avec beaucoup d'efforts. C'est grâce à moi que ces gens ils sont venus. J'ai converti tel, c'est moi qui ai converti. Je dis, on ne convertit personne, c'est le Saint-Esprit qui convertit quelqu'un. Nous devons savoir que ces personnes qui viennent et qui sont dans les maisons du Seigneur sont des personnes qui sont appelées par le Seigneur lui-même, qui les a convertis. Et donc, c'est le troupeau de Dieu. C'est aussi conduire ce troupeau et leur donner la nourriture en les conduisant dans de bons pâturages. C'est aussi les guider dans un droit chemin et soigner ces brebis faibles ou malades. Donc le rôle des anciens ici, c'est de conduire ce troupeau dans de bons pâturages. Et si vous avez fait Israël, ou si un jour vous avez l'occasion d'aller en Israël, c'est un pays désertique, à plus de 90%, et les points d'eau sont rares, et même la végétation est rare. Et généralement, si vous êtes là-bas, que vous voyez les bédouins, c'est ces bergers qui sont un peu traditionnels, qui conduisent les animaux dans la brousse, dans le désert, pour leur trouver de quoi abrouter. Et là-bas, c'est le berger qui est au devant du troupeau. Le berger, il est devant et les brebis le suivent pas après pas. C'est contraire à ce que nous avons chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, c'est les brebis qui sont devant et le berger est derrière. Si vous allez chez nous, c'est au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous verrez comme image. Le berger, c'est lui qui est derrière. Alors, celui qui ferait le chemin, c'est la brebis qui ferait le chemin pour lui. Mais ce n'est pas l'image que le Seigneur veut. Il veut que les bergers, les anciens, donc soient au devant pour savoir où conduire, où il y a un pâturage, où conduire le troupeau de Dieu. Et même de prendre soin aussi des brebis malades. Quelquefois, ce n'est pas ce qu'on arrive à faire, nous, en tant que responsables. Si on parle d'anciens, en tant que responsables, en tant que celui qui a la charge du troupeau, quelquefois, nous n'arrivons pas à prendre soin des brebis. Les bergers d'Israël avaient été défaillants dans ce service, selon Ézéchiel 34. Jésus était donc ému de compassion en constatant l'état misérable de son peuple terrestre. Et il disait dans Matthieu 9, verset 36, qu'il a trouvé le peuple était languissant et abattu, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce peuple de Dieu a soif de la parole de Dieu, de la nourriture, mais il n'y avait personne pour leur donner cette nourriture. Et le Seigneur Jésus est venu pour donner cette nourriture à ce peuple-là. Et nous aussi, anciens, nous devons nourrir ce peuple-là. L'ancien est placé au sein du troupeau et non au-dessus de lui. Parce que humainement, l'Église est quelquefois comparée à l'administration. Et souvent, je discute beaucoup avec nos anciens chez nous. C'est comme vous êtes mes sujets, vous êtes mes hommes, vous êtes. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Il peut y avoir de hiérarchie dans le service, mais pas entre la communauté et le pasteur. Je ne suis pas votre patron. Je suis votre guide, votre conducteur. Je suis celui que Dieu a envoyé pour vous nourrir. Mais je ne suis pas placé au-dessus de vous comme le serait un chef d'entreprise où il va parler en commandement. Voilà, vous faites ça, vous faites ci, c'est terminé. Vous obéissez aux ordres. Mais ici, dans l'Église, les anciens doivent comprendre qu'ils ne sont pas placés au-dessus du troupeau, mais ils sont parmi le troupeau pour comprendre. Le troupeau de Dieu qui est avec vous, nous dit Pierre. Quel privilège donc pour nous ou pour un frère d'avoir cette responsabilité de prendre la charge du troupeau de Dieu. Chez nous, souvent, même le jardinier de la cour présidentielle, il est comme un roi, quoi. Même souvent pour des affaires, on pense le solliciter, quoi. Pourtant, il y a des gens qui sont dans les palais présidentiels qui n'ont jamais vu le président. Parce que quand le président il va rentrer avec son cortège, on les dégage de la voie. Mais pour nous qui sommes là, être jardinier chez le président de la République, ça, c'est une haute responsabilité. Je suis roi, quoi. Oui, nous devons savoir que nous avons été choisis pour être dans le troupeau de Dieu, pour nourrir le troupeau de Dieu, pour prendre soin, pour donner l'enseignement qu'il faut. C'est pourquoi l'ancien doit toujours avoir du temps pour donner des exhortations, pour donner des messages, pour donner des passages bibliques, des versets, pour encourager. C'est ça la nourriture dont il est question. C'est la parole de Dieu, rien d'autre. C'est malheureux que quelquefois dans les églises pentecôtistes, charismatiques, souvent les tendances, ça diverge. En Europe, c'est un peu moins, mais chez nous, dans les pays africains, partant du Nigeria, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, jusqu'au Libéria, vous trouverez des églises où la nourriture n'est plus, la nourriture spirituelle, la parole de Dieu n'est plus au cœur du culte. C'est plus au cœur du culte. Ce qui est au cœur du culte, c'est la délivrance, c'est-à-dire la prière. Je prie pour délivrer des âmes. C'est-à-dire que les chrétiens, quelquefois j'ai dit, mais on dirait que les chrétiens, les gens ont eu tort de se convertir. Parce qu'une fois que vous vous convertissez, c'est vous qu'on va torturer toute votre vie jusqu'à votre mort. On n'enseigne pas la parole, mais on va trouver qu'il a un démon à toute chose. En Afrique, chez nous, on ne meurt pas naturellement. Voilà, ma maman est décédée à 96 ans, mais on a trouvé qu'elle n'est pas morte naturellement, quoi. Alors que les médecins m'ont dit que son organisme ne tient plus, il y a trop de choses dans le corps et qu'elle va mourir. Mais mes frères ont trouvé que non, c'est pas normal, elle ne devait pas mourir, quoi. Alors, ce qui fait que dans les églises africaines, ils passent plus de temps à délivrer ces âmes-là. Mais nous, nous devons comprendre que nous devons donner la nourriture, comme selon Luc 22, à partir du verset 26. Plusieurs recommandations donc sont données ensuite à ceux qui veillent sur le troupeau de Dieu. Quelles sont les recommandations qu'il donne? Pierre donne des recommandations. Il dit qu'ils doivent le faire, non par contrainte. Si vous lisez à partir du verset 2, 4, 3, là. Non par contrainte, mais de plein gré. Il ne faudrait pas que quand on vous confie une responsabilité dans l'église ici, vous la fassiez comme par contrainte. Je suis obligé de venir. Là, si je ne viens pas, ce n'est pas bon, comme on le dit. Il faut que je sois là. Non, ne le faites pas par contrainte, mais de plein gré. Pierre, une fois restauré, lui-même qui était faible quand le Seigneur était là, c'était plus à accomplir la tâche confiée par le Seigneur. Ainsi, la charge d'ancien d'être peut être remplie, non comme une tâche imposée par une organisation humaine, mais avec le désir d'obéir et de plaire au Seigneur. Alors, cet ancien qui comprend qu'il travaille pour le Seigneur, il doit accomplir cette tâche, non comme une contrainte, mais de plein gré, en le faisant avec la joie qu'il est en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Ça, c'est très important. Il dit encore que ces gens, ils doivent le faire non pour un gain honteux, mais de tout cœur. Il ne faut pas le faire pour un gain honteux. Et souvent, on a ça. Le danger pour les anciens est aussi de remplir sa, pour l'ancien, est de remplir sa fonction pour obtenir un gain. Un tel motif est vraiment tout à fait incompatible avec le service de Dieu. Si nous pensons servir le Seigneur pour un gain, nous anciens, nous voulons le faire pour avoir quelque chose en retour matériellement, c'est que nous sommes en erreur. Nous devons le faire comme un sacrifice, et il parle même d'un sacrifice vivant que nous le faisons. Et quelquefois, ça arrive que souvent, en servant le Seigneur, on pense à l'argent. Si je dois venir nettoyer l'église, il faut qu'on me paye. Si je dois venir placer les chaises avant le culte, il faut qu'on me donne quelque chose. Si je dois laisser descendre du boulot avec la fatigue du boulot, venir faire une étude biblique, et venir enseigner et donner la parole aux gens, il faut que vous me donniez quelque chose. Moi, j'ai dit, j'ai prié toujours le Seigneur qu'un jour, je puisse servir le Seigneur sans qu'on me paye un salaire même. Si c'est possible. Ou je ne sais pas qu'est-ce qui va nourrir mon corps pour que je ne demande pas à l'église pour me payer. Parce que des fois, je souffre de voir qu'à la fin du mois, on me paye un salaire. J'aurais voulu le faire sans qu'on me donne quelque chose. Parce que d'aucuns pourraient penser que mais le pasteur Kra, il est chaud là parce qu'il sait que... C'est ça. Donc, nous devons le faire volontairement. Et troisième chose encore, il dit, non comme dominant sur les héritages, mais étant modèle du troupeau. L'ancien ne doit pas non plus exercer de domination sur le troupeau, mais être un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ainsi que le recommandait aussi Paul à Timothée, dans 1 Timothée 4. Paul lui-même était aussi imitateur de Christ. Il était modèle parfait. Et nous devons aussi être modèle. Nous devons être modèle pour les gens. Et les gens comptent sur nous. Les jeunes gens comptent sur nous, nous les anciens, nous qui sommes âgés. De ce que nous sommes, ils le seront. Il y a eu un enfant qui avait un comportement difficile, qui a battu un autre enfant à l'église chez moi quand j'étais pasteur de paroisse. Et j'ai essayé d'approcher l'enfant, pourquoi il est aussi violent. Alors, en causant avec lui, il dit, mais ça, c'est pas nouveau, je ressemble à mon père. Je dis, mais comment? Il dit, mais mon papa, il bat ma maman, il frappe ma maman tous les jours. Donc, c'est lui, c'est notre caractère, quoi. C'est de dominer, c'est de frapper. C'est misérable. C'est déplorable de voir un tel comportement. Alors, nous devons être des modèles. Ceux que nous encadrons nous regardent. La conduite de l'enseignant, la conduite de celui qui donne l'enseignement est plus importante que l'enseignement qu'il donne, n'est-ce pas? De mon modèle, vous serez motivé à le faire. Mais si j'enseigne des choses que moi-même, vous ne me voyez pas faire, est-ce que vous serez encouragé vous-même à faire l'effort de pratiquer? Donc, c'est très bien quand Pierre dit ici qu'ils doivent être des modèles. Et à la fin de ça, pour les anciens, il est dit, après, donc, il parle des récompenses. Après avoir parlé des souffrances de Christ et de la gloire qui va être révélée, Pierre indique maintenant que la fidélité dans le service sera récompensée par une couronne de gloire. L'apôtre montre que les brebis n'appartiennent pas aux anciens, mais qu'ils en sont responsables devant le souverain pasteur. Et quand ce souverain pasteur, qui est Jésus-Christ, viendra, c'est lui donc qui va leur donner la couronne, la grande couronne, inflétrissable de la gloire. Le deuxième groupe de personnes, c'est les jeunes. Et là, c'est la deuxième partie. Et donc, il va donner une exhortation aux jeunes à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Alors là, l'élément important dedans, c'est la soumission et l'humilité. Ça convient beaucoup aux jeunes. Quand on est jeune, les jeunes gens sont exhortés par l'apôtre à être soumis aux anciens, ceux-ci ayant eux-mêmes reçu l'autorité de la part du Seigneur. Et quelquefois, dans nos entreprises, on voit cela. Les premiers qui ont commencé à travailler chez nous en Afrique n'avaient pas de bon niveau. On nous disait que notre premier président, Oufou Boigny, a fait que le lycée, mais on l'appelait médecin parce que je crois qu'il a fait une école d'infirmier et puis il est sorti, il était infirmier, mais il était docteur, on l'appelait deux fois docteur. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui font la médecine et qui font beaucoup d'années, 7 à 8 ans, et qui sortent de la médecine, qui viennent avec un gros bagage intellectuel. Et quelquefois, quand ils arrivent à l'hôpital, dans le service, avec le bagage qu'ils ont, ils ont tendance à montrer que les premiers ne sont rien. Il n'y a pas d'humilité. Ça en est de même dans les sociétés aussi, dans les entreprises. Comment vous vous comportez quand vous voyez que vous avez le plus gros diplôme dans l'entreprise? Quelquefois, vous êtes rempli de vous-même. Et des choses simples, vous pensez que non, c'est pas comme ça. Il faut que vous voulez avoir toujours le dernier débat, quoi, le dernier discours qui domine. Alors, il en est de même pour l'Église ici. Les anciens ne doivent pas dominer les jeunes, mais être comme eux, revêtus d'humilité. Ne sont-ils pas les uns les autres serviteurs du Seigneur? L'humilité, donc, pour les jeunes, doit se copier du modèle des anciens. Ils doivent être remplis d'humilité, mais aussi de la soumission. Souvent, quand on se soumet, on pense qu'on a peur, ou qu'on est impuissant, ou qu'on est esclave. Non. Chrétiens, ne cherchons pas à nous élever et à occuper une place prééminente parmi les enfants de Dieu. Gardons devant nos yeux l'exemple du Seigneur qui nous dit « Apprenez de moi, car je suis de bonheur et humble de cœur. » Retenons l'exhortation de Paul aux Philippiens, par exemple, qui dit que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Alors, est-ce que quand je regarde les gens venir, quand je vois les gens à côté de moi, est-ce que je les regarde comme supérieurs à moi ou que je les regarde comme supérieurs à eux? Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, 60 langues différentes en dehors de la langue officielle, le français. Mais dans ça, souvent, il y a des langues qui se considèrent supérieures aux autres, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres chez nous. Il y a des peuples. Si tu vas prendre une épouse là-bas, la famille va te chasser. Ils vont dire, on ne veut pas. Parce qu'ils sont rien. Je ne sais pas si ça existe chez vous en Asie ou en Europe ici. Mais chez nous, ça existe. Si moi, il y a des peuples, si ma fille va prendre un homme là-bas ou mon fils va prendre une femme là-bas chez nous, peut-être en tant que pasteur, la contrainte pastorale va faire que je ne vais rien dire. Mais dans ma tête, là, je vais dire, mais pourquoi là-bas? On se croit toujours supérieur aux autres, à des peuples. Mais nous sommes les mêmes. Regardez ce qui est magnifique que Dieu nous a donné. Le sang qui coule en vous, c'est le même sang qui coule en moi. Le sang ne dépend pas de votre région géographique, ni de votre couleur, ni de votre race, n'est-ce pas? Le sang d'un Chinois va dans le sang d'un Baoulé que je suis, de Côte d'Ivoire. De même que moi, mon sang aussi peut aller dans votre sang, même si vous êtes blanc, mais le sang, il sortira de la peau noire et il ira en vous et vous donnera la vie. Nous sommes tous mêmes. Donc ça, c'est très important. Nous devons être revêtus d'humilité. Satan, notre adversaire, est toujours prêt à séduire. Si donc le cœur des chrétiens se laisse attirer par les tentations qu'ils présentent, alors ils auront affaire au serpent rusé. Mais ils peuvent aussi devenir proie même du lion rugissant et parlant toujours du diable. Et nous savons que le Seigneur Jésus a été confronté à la tentation. Vous vous souvenez, quand il est allé dans le désert pour prier avant son ministère, il a été tenté par le diable déguisé en serpent. L'apôtre indique l'attitude des croyants, indique que l'attitude que les croyants doivent avoir face au lion, ils doivent résister. Nous devons résister, c'est très important. Il faut qu'on résiste à la tentation. Alors, comment résister à la tentation? On avait un jeune qui dit, lui, ça résister, c'est si il est tenté d'aller vers une fille pour lui demander à faire l'amour ou quoi, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut que Dieu lui-même empêche, quoi. Lui, il se laisse aller, c'est à Dieu de faire pour l'empêcher. Mais si Dieu ne laisse pas que tout marche, ça veut dire que... C'est vraiment... Non. Résister, c'est quelquefois abandonner, c'est quelquefois fuir. Si moi je dis, je vais résister, c'est pas peut-être mon don, mais si je travaille dans un bar, il y a des pasteurs qui disent qu'ils évangélisent les prostituées dans les bars, moi c'est un ministère, ça sera difficile pour moi, quoi. Que tu sois dans les bars, dans les nightclubs, où elles sont à demi-nu, où elles sont exposées, où elles montent tout leur corps et tout, et tu es là, tu es dedans, mais finalement, à un moment donné, la tentation va tomber. Mais et si je n'ai pas vu? Donc résister, c'est abandonner. Et les jeunes doivent résister. Les chrétiens doivent résister. Les souffrances, donc, connues, alors, par les fidèles témoins du Seigneur, allaient encore s'intensifier quelques années plus tard, selon ce qu'avait annoncé le Seigneur lui-même. Alors, dans ce travail, il faut résister parce que la souffrance va augmenter. Les souffrances vont augmenter pour nous. La vie ne sera jamais facile. C'est pourquoi quand on va vers des frères pour venir à l'église, j'aime pas présenter un évangile de facilité. C'est-à-dire, on présente quelque chose de très beau. Et puis l'individu, il vient, il voit qu'il est confronté à des problèmes chaque jour. Alors sa foi ne peut pas s'estabiliser, mais il faut le prévenir que le fait d'être dans le Seigneur, tu vas souffrir encore sur la terre. La souffrance y sera. Et beaucoup de personnes souffrent dans leur foi. N'est-ce pas, dans nos églises, on a des gens qui ont le cancer ou qui sont décédés de crise cardiaque. Pourtant, ils sont dans le Seigneur. Quelquefois, ils sont des grands croyants, des grands fidèles. Donc, nous devons savoir que le fait que nous soyons chrétiens n'enlève pas de nous la souffrance et la persécution. Moi, je sais que j'ai eu la persécution parce que je suis né d'une famille de 12 enfants. Je suis le dernier et aucun n'allait à l'église. J'étais le seul à aller à l'église et encore à vouloir servir le Seigneur. J'ai été abandonné par mes parents et mes frères et sœurs. Tous m'ont abandonné. J'ai tout perdu. C'est un pasteur qui m'a recueilli chez lui. Et c'est lui qui m'a préparé au ministère. Et c'est par lui qu'aujourd'hui je suis serviteur. Parce qu'il m'a donné un abri, il m'a donné un logement, il m'a donné de la nourriture. et il m'a aidé à croître dans la foi et à pouvoir faire ce service que je fais aujourd'hui. La souffrance y sera, bien-aimé. Vous allez souffrir, mais nous devons savoir que notre gloire est éternelle et à venir. C'est pourquoi nous voyons notre troisième point, qui est le dernier, la gloire éternelle. Les souffrances du croyant sont pour peu de temps. C'est vrai, bien-aimé. Notre souffrance est pour peu de temps. Moi, j'ai 50 ans. En 2017, ça me fait 50 ans. 50 ans, ouf, en Afrique, on n'a pas notre espérance de vie. On mange mal, on dort mal, on fait des guerres. Donc, pour nous, on sait que le calcul est bas, quoi. Notre espérance de vie n'est pas très élevée. Je sais que si je vais, je dis à mes enfants, vous pensez que je peux faire combien d'années encore? Ils disent, non, papa, toi, tu vas faire encore, les plus petits qui ne savent rien, ils disent 100 ans encore. Je dis, ça, c'est exceptionnel, quoi. Alors, les plus grands, ils disent, non, on pense que tu peux faire encore 50 ans. Je dis, non. Moi-même, quand je vois des douleurs dans mon corps et tout ce que je vois là, mon pronostic, peut-être dans une vingtaine d'années encore, je serai avec vous. Donc, il y a peu de temps à faire encore sur la terre. On est déjà à mi-parcours du chemin de la vie. Alors, s'il y a une souffrance, c'est combien de temps ça va durer? Par rapport à une gloire qui sera éternelle. Donc, endurons cette souffrance terrestre. Parce qu'après ces 40 ans, après ces 50 ans qui nous restent, nous aurons une gloire éternelle. La souffrance fera place à la gloire de Dieu, car Dieu, de toute grâce, a appelé les siens à la gloire éternelle. En attendant d'atteindre cette gloire, il s'occupe d'eux. Le Seigneur ne les laissera pas, même dans la souffrance, il s'occupe d'eux. C'est ça qui fait ma joie. Quand je sais qu'un jour, je serai dans cette félicité, dans cette gloire éternelle. Oh, je dis, Dieu, tu es merveilleux. Il s'occupe d'eux. Il les rend parfaits. Il les fortifie lui-même. Afin de les rendre semblables à Christ. Notre transformation, notre sanctification, notre transformation vient de Dieu. Pendant ce temps, le Seigneur travaille en nous. Il nous modèle. C'est lui qui nous amène à changer de comportement. Qui dit que ce n'est pas beau de vivre la vie que font les jeunes gens souvent? Ici, je vois peu. Mais en Israël, par exemple, où j'ai étudié, vous voyez les jeunes arabes. Bon, je crois que c'est une façon pour eux aussi de vaincre un peu l'influence israélienne sur le peuple arabe. Donc, ils ont les véhicules décapotables, des petites voitures de jeunes. Ils ouvrent et puis mettent la sono là. Et ils traversent la rue de lui, on entend boum, 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 boum. Avec des filles derrière. Vous voyez, c'est beau à regarder. Hein? Une belle BMW décapotable ou bien Mercedes décapotable, ils font. Mais nous, on est là dans la foi. On regarde, mais on ne peut pas le faire. On regarde ces choses. Oui, parce que le Seigneur nous a transformés. On n'a même plus envie de le faire. Il y en a parmi nous, pour leur foi, ont abandonné même la cigarette, ont abandonné même la boisson. Il s'est dit que c'est des choses pour la vie, ça ne donne rien. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui fait cette transformation. Et il les a fermés aussi. Dieu leur permet de tenir ferme. Je dis souvent, ici, c'est difficile de vivre sa foi chrétienne. On était quelque part où on m'a présenté comme pasteur et puis les gens, ils ont rigolé, quoi. C'est un pasteur. Un pasteur, c'est qui? Ah, ça existe encore, pasteur. On ne peut pas dire qu'on est pasteur ici avec joie, en public, dans un milieu laïque. Ce n'est pas, c'est pas un bon renom, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Mais vous êtes chrétien. C'est quelquefois gênant. Il y en a, c'est difficile de dire dans votre service que moi, je suis chrétien, je suis fier d'être chrétien. Vous ne pouvez pas clamer ça fort comme ça dans votre service. Parce que c'est humilié, quoi. Mais vous êtes dedans, pourquoi? Parce que le Seigneur vous a affermi. C'est lui qui vous donne ce courage d'accepter cette humiliation et pour la gloire qui vient. Enfin, il vous fortifie. Le Seigneur vous fortifie. Bien-aimés, donc, nous devons comprendre que notre Seigneur a préparé tout cela pour nous. C'est pourquoi le service que nous faisons doit être un service qui est effectué dans la perspective du retour du Seigneur. Que Dieu donc nous bénisse, qu'il nous soutienne, afin que tous les services que nous allons faire dans l'esprit de 1 Pierre chapitre 5, nous le fassions dans la perspective du retour du Seigneur et de la récompense et de la glorification à venir. Amen.